Bonjour à tous, merci à vous d'être venus si nombreux ce soir. Mais l'événement est assez spécial pour justifier ce grand nombre de personnes aujourd'hui au Technoir. Alors, avant de passer la parole à Richard Stallman, je vais vite vous présenter rapidement la Fondation pour les gens qui ne connaissent pas. Donc la Fondation ZIA, la Fondation pour la promotion de l'innovation en Algérie. Elle est essentiellement active dans trois domaines, donc les sciences de l'ingénieur, les sciences de la vie et l'informatique et la communication, ce qui nous concerne un petit peu plus ce soir. On soutient l'innovation dans le canton, on peut s'appuyer sur des sites technologiques qui sont répartis du bas du canton à Monté jusqu'au sommet du canton à Liège, différents sites technologiques en collaboration aussi avec les instituts de recherche et les hautes écoles du canton. Le rôle de la Fondation ZIA, c'est donc le soutien à l'innovation, puis elle le fait au travers de quatre services bien précis, donc le cofinancement de projets de recherche et développement et d'industrialisation. Donc ça, c'est plutôt centré sur les PME, les start-up et le domaine académique. L'aide à la création de start-up.
Je n'entends pas ce que vous dites.
L'aide à la création de start-up, plutôt spécifique pour les gens qui ont des projets de start-up, que ce soit des étudiants ou des gens qui ont d'autres projets. On peut fournir aussi un hébergement sur un de nos sites technologiques, donc typiquement par exemple pour des start-up dans l'informatique et la communication, ça pourrait être au Technoart ici dans ces bâtiments. Et puis finalement, on soutient l'innovation aussi en apportant du coaching par l'intermédiaire de notre incubateur. Donc voilà, je ne vais pas faire trop long, comme le temps passe déjà assez vite. Si vous avez des questions, si vous avez des projets d'innovation dans le canton, n'hésitez pas, après la conférence, durant l'apéro, à venir me trouver ou un de mes collègues, si on pourra discuter un peu plus profondément de tout ça. Alors, je vais laisser la parole donc, au docteur Richard Stallman. Je ne vais pas lui faire l'affront de le présenter. Voilà, il fera ça très bien tout seul, je pense. Et puis donc, je lui laisse la parole pour son tour sur une société numérique. Merci de l'applaudir, le docteur Richard Stallman.
D'abord, il y a deux choses que je veux vous demander. Si vous faites des photos de moi, avec un mobile, assurez d'avance qu'il ne mette pas, la géolocalisation dans les photos. Et ne mettez pas les photos de moi dans Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. C'est tout sont la même entreprise. Cette entreprise est un moteur de flicage. Qui sait reconnaître les gens par leur visage ou par le dos de la tête. Donc, si vous mettez la photo de quelqu'un dans cette entreprise, vous l'aidez à fliquer les gens, à fliquer cette personne. C'est du mauvais traitement d'un ami et mauvais traitement de moi. Ne me le faisiez pas. Deuxièmement, si vous enregistrez cette conférence et vous voulez en distribuer des copies, prévoyez de le faire uniquement dans les formats favorables au logiciel libre, c'est-à-dire les formats OGG ou le format WebM. Pas dans MP quoi que ce soit, parce que ces formats sont brevetés dans plusieurs pays. Surtout pas dans Flash. Flash exige l'utilisation d'un programme privateur pour le reproduire. Et il faut ne pas utiliser ce programme. Donc il faut ne pas distribuer de Flash dans un site web. Faire aussi, et n'utilisez pas Real Player player ni QuickTime. Aussi, assurer que le site, dans son utilisation normale, permette la décharge de copies sans exécuter aucun programme privateur dans la machine du visiteur. Ni même du code JavaScript dans les pages mêmes. Voici le problème de YouTube. YouTube distribue le format WebM, un bon format, mais pour regarder quoi que ce soit en YouTube, il faut exécuter le code JavaScript privateur dans la page. Donc, ne mettez pas mes conférences dans YouTube. Et mettez aussi la licence Creative Commons non dérivée, parce que c'est une présentation de mon point de vue. Un moment. Donc, il y a beaucoup de projets dont le but est l'inclusion numérique de tout le monde. Est-ce que ce but est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment désirable? Ça dépend de la justice ou de l'injustice de la société numérique dans laquelle on propose de nous inclure. Si cette société numérique est juste, il est donc un bienfait d'être membre de cette société. Mais si elle est injuste, le vrai but devrait être l'extraction numérique de toutes les victimes. Donc, quelles sont les menaces à la liberté et la justice dans la société numérique? Je traiterai plusieurs menaces. Et premièrement, le logiciel qui ne respecte pas la liberté de ses utilisateurs. Quoi? Je suppose, moi je bouge. Je n'entends pas les mots, les consonnes que vous dites, mais si c'est meilleur, je suis d'accord. J'ai des problèmes auditifs. Si on ne me parle pas soigneusement, je ne reconnais pas les consonnes. C'est dommage. Donc, il s'agit du logiciel libre ou privateur. Donc, quand je dis en anglais free software, ça signifie libre, logiciel libre. Ce n'est pas une question d'être gratuit, ce n'est pas une question du prix. Le prix est un petit détail. Si tu reçois une copie gratuitement ou achètes une copie, ça nous est égal. Mais si cette copie respecte votre liberté, ça c'est important. La liberté vaut lutter. La gratuité, pourquoi? Donc, c'est quoi un programme et un ordinateur? L'ordinateur est une machine conceptuellement très simple. Elle sait retrouver la prochaine instruction et faire ce qu'elle dit. Et retrouver autre instruction et faire ce qu'elle dit. Et retrouver l'instruction suivante et faire ce qu'elle dit. Et des millions de fois par seconde. Mais conceptuellement, c'est très simple. les instructions se trouvent dans le programme. Selon le choix d'instruction dans le programme, ce programme peut guider le même ordinateur à faire n'importe quoi. Ah, il y a des choses impossibles, il y a des limites. Mais dans les limites, le même ordinateur peut faire n'importe quoi selon le programme. Donc, selon les instructions dans le programme. Donc, qui donne les instructions à ton ordinateur? Tu peux penser que ce soit toi, mais en vérité, c'est un autre. Tu peux croire que ton ordinateur t'obéisse, tandis qu'en vérité, il obéit premièrement à un autre et à toi uniquement quand l'autre l'autorise. Donc, pour chaque programme, il y a deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Il est toujours l'un ou l'autre parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, nous disons qu'il s'agit d'un programme libre. C'est quoi la liberté? C'est d'avoir le contrôle de ta propre vie, des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour faire l'activité, le contrôle de l'activité requiert le contrôle de ce programme. Donc, quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce programme respecte la liberté de ses utilisateurs et donc mérite d'être appelé libre. Pour que le programme soit libre, il doit porter les quatre libertés essentielles. La liberté zéro est d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté 1 est d'étudier le fonctionnement du programme et de le changer pour qu'il fonctionne comme tu veux et pour qu'il fasse ton activité informatique comme tu veux. Pour que cette liberté soit pratique, il faut l'accès au code source. Voici du code source d'un programme. C'est comme un mélange de l'anglais et de la mathématique. Donc, si tu as appris le langage de programmation, tu peux comprendre ce qu'il dit et tu peux le changer pour faire autre chose. Mais pour l'exécuter, il faut le convertir en programme exécutable. Une série de 0 et 1 incompréhensible, ou presque. Si le programme est si court, oui, un programmeur peut comprendre ce que ça dit. Mais pour un grand programme qui contient des centaines de milliers de lignes de code source, ce programme, on peut comprendre en code source, mais en exécutable, le comprendre en exécutable est laboureux. C'est un travail qui s'appelle l'ingénierie inverse. Très, très difficile. Donc, si théoriquement l'utilisateur avait le droit de changer le programme, mais il fallait faire de l'ingénierie inverse, d'abord, ce ne serait pas pratique. Ce serait une liberté théorique, mais absente aux pratiques. Donc, l'accès au code source est une précondition pour la liberté 1. C'est de liberté essentielle fournie à chaque utilisateur le contrôle séparé de ce programme. C'est-à-dire que chacun peut changer ses copies. Je peux changer. J'ai le droit de changer mes copies, tu as le droit de changer tes copies, mais toujours séparément. C'est essentiel, le contrôle séparé, mais ne suffit pas. Parce que, et voici un utilisateur qui change le programme et trois autres qui l'utilisent tel quel, sans le changer. Bon, mais ce ne suffit pas parce que beaucoup d'utilisateurs ne sont pas programmeurs, ne savent pas comprendre ni changer le code source. Comment peuvent-ils participer dans le contrôle de ce programme? Il faut aussi le contrôle collectif, c'est-à-dire la liberté de collaborer avec des autres en exerçant le contrôle de ce programme. Voici un groupe d'utilisateurs qui collaborent, trois utilisateurs. Deux font des changements, évidemment, ils sont des programmeurs. Celui-ci à gauche ne change pas le programme. Peut-être il est utilisateur non programmeur, mais il participe dans le contrôle de ce programme et de comment il fonctionne parce qu'il participe dans les discussions de comment changer le programme. Ceux qui collaborent sont ceux qui veulent collaborer. Voici deux autres utilisateurs qui ne participent pas dans ce groupe-là. Pourquoi pas? Nous ne savons pas. Peut-être ils ne connaissent pas les autres trois. Peut-être ils ne veulent pas collaborer parce qu'ils méfient les autres trois. Ou ils ont de différentes idées de comment changer le programme. Peut-être ils commenceront de collaborer tous les cinq demain. Le point, c'est que ceux qui veulent collaborer sont libres de le faire. Le contrôle collectif requiert deux libertés essentielles en plus. La liberté numéro 2 est celle de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est celle de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, quand quelqu'un dans le groupe d'utilisateurs qui collaborent dans un groupe, quand quelqu'un dans ce groupe fait une version modifiée, avec la liberté 3, il peut en faire d'autres copies pour les distribuer à d'autres membres du groupe. Puis, les autres membres du groupe, par leur liberté numéro 2, peuvent faire d'autres copies exactes de cette version-là pour les distribuer aux autres membres du groupe. Aussi, ils peuvent offrir des copies aux autres qui ne participaient pas dans ce groupe. Ils peuvent même offrir des copies au grand public. Un aspect de la liberté 2 est spécialement important au plan éthique. C'est-à-dire quand il s'agit de la redistribution non commerciale, c'est-à-dire le partage de copies. Partager est bon. Partager les copies est la base de la société pour les utilisateurs du numérique. Et donc, c'est une liberté fondamentale qu'il ne faut jamais gêner. Donc, n'importe quelle loi ou politique pour gêner la pratique de partager est une attaque à la société, est directement antisociale. Mais la liberté 2 est plus large que ça, parce que la liberté de partager doit appliquer à toute œuvre publiée. Mais ce n'est pas obligatoire que toute œuvre soit libre. Les programmes, oui, doivent être libres parce qu'on les utilise pour faire des activités. Les programmes sont des instruments à utiliser. des autres œuvres, comme les œuvres artistiques, ne sont pas des instruments. Ils ne servent pratiquement à rien. Ce n'est pas leur but de servir. Les œuvres artistiques existent pour être appréciées et font peut-être une impression, mais on n'a pas l'idée de les utiliser, de les employer. Mais le logiciel, oui. Donc le logiciel doit respecter la liberté de celui qui l'utilise. Et ça comprend les quatre libertés essentielles. Si un programme porte les quatre libertés essentielles, complètement, ce programme est libre. Parce que les utilisateurs ont le contrôle et ce programme fera ce que les utilisateurs veulent. Mais si une des libertés manque ou est incomplète, en ce cas, les utilisateurs n'ont pas complètement le contrôle de ce programme, mais c'est plutôt le programme qui a le contrôle de ses utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme, pas libre, est privateur. Il prive de la liberté aux utilisateurs. Il est un instrument du pouvoir injuste du développeur ou du propriétaire sur les utilisateurs. Voici pourquoi le logiciel privateur ne devrait pas exister. Et pourquoi, pour ta propre liberté, tu as besoin de t'échapper du logiciel privateur. Si tu utilises un programme privateur, il te prive de ta liberté. Pour ne pas être privé de la liberté, il faut rejeter ce programme. Mais ce n'est que la première injustice d'être sous le pouvoir du propriétaire du programme. Mais maintenant, d'habitude, les propriétaires sont complètement conscients de leur pouvoir. Et ils donc ressentent toujours la tentation d'utiliser ce pouvoir pour maltraiter leurs utilisateurs pour gagner plus d'argent. Ils cèdent d'habitude à cette tentation. Ils sont corrompus par leur pouvoir. Ils mettent des fonctionnalités malveillantes dans les programmes privateurs. Donc, la première injustice amène d'autres injustices. Par exemple, il y a des programmes qui fliquent leurs utilisateurs. Voici le swindle d'Amazon, l'escroquerie d'Amazon. Swindle signifie escroquerie. Un produit fait pour faire de l'escroquerie aux utilisateurs des libertés traditionnelles des lecteurs. Par exemple, une fonctionnalité orwellienne, c'est que le produit flique l'utilisateur. Il transmet de temps en temps le titre du livre et quelle page l'utilisateur lit au serveur d'Amazon. Si l'utilisateur entre des notes, il transmet les notes à Amazon. Si l'utilisateur souligne des passages, transmis à Amazon. Beaucoup de produits informatiques fliquent leurs utilisateurs. C'est presque habituel. Les fonctionnalités de fliquer ont été trouvées dans Windows, dans Mac OS, dans les iThings, dans Flash Player et aussi dans presque tous les téléphones portables de n'importe quelle marque. Il y a aussi la fonctionnalité de restreindre l'utilisateur, de le bloquer de faire ce qu'il voudrait faire. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité qui manque. des fonds chantés peuvent manquer à n'importe quel programme. Parce que n'importe quel développeur a tout le temps nécessaire pour faire, pour écrire tous les fonds, toutes les fonctionnalités désirables. Si le développeur d'un programme libre n'a pas implémenté la fonctionnalité que tu désires et tu te plains à lui, il peut répondre « Ah, ajoute-le, sois le bienvenu, moi j'ai travaillé assez, maintenant je veux faire autre chose, mais tu peux continuer mon travail, pourquoi pas ?» Et c'est, cette réponse est juste dans le cas où le programme est libre. Mais si le programme est privateur, il n'a pas cette réponse parce qu'il te bloque d'ajouter d'autres fonctionnalités. Tu ne peux pas faire de changement dans un programme privateur. Il n'a pas cette excuse. Mais ici, ils vont beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas de l'absence d'une fonctionnalité. Ils ont travaillé parfois des années pour développer une manière d'assurer que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Ça s'appelle DRM, en anglais Digital Restrictions Management, gestion numérique de restrictions à l'utilisateur, c'est-à-dire les menottes numériques. Voici je ne sais pas le dire. Comment dit-on? Infamous. En anglais, c'est infamous. C'est-à-dire connu pour être injuste. Infâme. Donc, l'infâme ray bleu qui attaque les utilisateurs qui veulent partager ou copier. Évidemment, pas de cette manière, c'est une blague. Mais ce produit a été fabriqué pour bloquer ce que les utilisateurs voudront faire. Donc, une injustice. Et telles fonctionnalités de restreindre l'utilisateur sont connues dans Windows, dans Mac OS, dans les iThings, dans Flash Player, dans le Swindle d'Amazon. C'est très commun. Mais il y a aussi les portes dérobées pour attaquer l'utilisateur. Par une porte dérobée, quelqu'un a la possibilité de transmettre des commandes au produit pour faire quelque chose à l'utilisateur. Par exemple, le Swindle d'Amazon contient une porte dérobée pour supprimer des livres à distance. Nous le savons par l'observation, parce qu'en 2009, Amazon a commis un acte orwellien. Il a supprimé des milliers de copies d'un livre. Et c'était quel livre? Livre, c'était 1984 de George Orwell. Il y avait beaucoup de critiques à Amazon. Donc Amazon a dit qu'il ne le ferait jamais plus, sauf sous ordre de l'État. Évidemment, pas très réconfortant comme promesse. Mais ce n'était pas une promesse honnête. Amazon a dit un mensonge parce que ce n'était pas un accord avec force légale. Donc Amazon a retourné à supprimer des livres à distance arbitrairement. Des portes dérobées sont communes aussi. Nous connaissons des portes dérobées dans Windows, dans Mac OS, dans les... Non, pas dans Mac OS, mais dans les iThings, oui. et aussi dans les téléphones portables. Il y a aussi la censure. Il y a des ordinateurs conçus pour imposer la censure des applications aux utilisateurs. Apple a commencé cette pratique, Microsoft l'a suivi. Dans l'iPhone, l'utilisateur ne pouvait pas installer librement les applications de son choix. Le système limitait l'utilisateur à choisir entre les applications approuvées par Apple. Et Apple pratique cette censure selon ses intérêts économiques et selon des points de vue politiques. Les utilisateurs, quand ils cherchaient des manières de contourner la censure, ils les appelaient jailbreak, c'est-à-dire t'échapper de prison. S'échapper de la prison, reconnaissant en effet que ce sont des ordinateurs prison, conçus comme des prisons pour leurs utilisateurs. Il y a aussi des portes dérobées universelles. Une porte dérobée offre le pouvoir de faire quelque chose à l'utilisateur. Selon les détails, la porte dérobée peut permettre celui-ci ou celle-là, mais quand la porte dérobée permet d'imposer à distance des changements de logiciel, en ce cas, cette porte dérobée est universelle parce qu'il offre le pouvoir de faire n'importe quoi à l'utilisateur. Il suffit d'installer par force à distance les changements de logiciel pour faire quoi que ce soit, puis on peut commander de le faire. Donc, nous avons trouvé des portes dérobées dans Windows depuis Windows XP. Nous ne savons pas si la porte dérobée universelle existait avant, peut-être oui, peut-être non, mais les preuves existent depuis Windows XP. Mais Microsoft ne l'admettait pas. Ne disait jamais qu'il existait une porte dérobée universelle. Mais nous avons démontré qu'elle existait. Mais les standards éthiques baissent toujours. Et dans Windows 10, Microsoft annonce qu'il a introduit une porte dérobée universelle. Prudente. Et il y a aussi une porte dérobée universelle dans le Swindle d'Amazon et dans presque tous les téléphones portables. Cette porte dérobée a été utilisée pour les convertir en dispositifs d'écoute. Quand le téléphone a été converti, il écoute tout le temps et il transmet toute la conversation qu'il écoute. Et pas besoin de parler direct au micro parce qu'il peut t'écouter depuis assez de distance. Il peut écouter toute la conversation dans la chambre. Et si tu penses récupérer la vie privée en éteignant le téléphone, surprise, le téléphone fait semblant de s'éteindre pendant qu'il continue de fonctionner, d'écouter, de transmettre la conversation. La seule manière d'éviter d'être fliqué est d'enlever toutes les batteries. Mais beaucoup de modèles contiennent des batteries impossibles à enlever. Et aussi, quand le téléphone se communique au réseau, le réseau sait toujours où il est. C'est-à-dire que le réseau suit l'utilisateur partout. Le téléphone contient une fonctionnalité pour aider le flicage. C'est la fonctionnalité de flicage du logiciel du téléphone, parce qu'il transmet la géolocalisation GPS sur commande. Mais même sans GPS, ils avancent chaque année à localiser mieux les téléphones. Donc, quand j'ai appris ce que font les téléphones publics, j'ai reconnu que ce sont la rêve de Staline. Suivre les gens tout le temps et les écouter quand ils veulent. Voici la rêve de Staline. Mais Staline ne pouvait jamais réaliser sa rêve. La technologie n'existait pas encore. Mais maintenant, les États font du flicage comme Staline aurait voulu faire. Aussi, une autre manière de saboter ses utilisateurs, nous savons que quand Microsoft découvre des erreurs de sécurité dans Windows, il les montre à l'NSA avant de les corriger pour donner aux États-Unis l'opportunité d'attaquer les ordinateurs de tout le monde. Est-ce que tu penses que l'État suisse doit utiliser Windows? Évidemment pas. Mais donc j'ai démontré que presque tous les utilisateurs du privateur sont des victimes du maliciel privateur. Les programmes privateurs les plus importants sont du maliciel. Et quant aux autres, qui sait? En vérité, nous connaissons beaucoup d'autres exemples. Voilà, regarde gnu.org/proprietary. pour les listes. Mais ce sont des dizaines d'exemples. Il y a des milliers de programmes privateurs dont nous ne savons rien. Donc pour un programme, et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pas pour être sadiques, non. Ils ont trouvé la manière de gagner plus d'argent en maltraitant leurs utilisateurs. Donc, pour chaque programme privateur, il y a deux possibilités. Ou nous connaissons des fonctionnalités malveillantes dans ce programme et c'est du maliciel certain. Ou nous ne savons pas et ce programme est du maliciel possible. Mais il est impossible, dans le cas normal d'un programme privateur, de vérifier l'absence de fonctionnalités malveillantes. Donc, chacun est du maliciel certain ou du maliciel possible. Il est impossible de faire confiance rationnellement à un programme privateur. Chaque programme privateur exige la foi aveugle. Souvent, dans une entreprise qui a démontré plusieurs fois qu'elle ne mérite pas cette foi. Donc, voici ce que c'est d'utiliser un programme privateur. C'est d'inviter l'entreprise à t'avoir. Et les développeurs du privateur n'ont plus de honte, n'ont plus de standards éthiques. Ils ont des événements où ils font des conférences sur leur nouveau moyen de maltraiter les utilisateurs. Il faut rejeter le logiciel privateur et échapper vers le monde libre que nous avons construit. Voici le monde libre. Nous l'avons construit avec le système d'exploitation GNU et le noyau Linux qui fonctionnent ensemble. J'ai lancé le développement du système GNU en janvier 1984 et en 1992, le système était presque complet, mais un composant essentiel manquait toujours, c'était le noyau qui fournit les ressources de la machine aux autres programmes. En 1992, M. Torvalds, qui avait écrit un noyau privateur, l'a libéré. Il a publié le code source de son noyau Linux sous une des licences libres. Il était donc possible de mettre ce noyau Linux en combinaison avec le système presque complet GNU pour avoir un système complet qui était le système GNU avec Linux. Et cette combinaison a lancé le monde libre. Théoriquement, le système GNU et Linux est libre, c'est-à-dire comme base, mais dans chaque version du système, les développeurs de la version d'habitude ajoutent d'autres programmes, et ces programmes peuvent être libres ou privateurs, mais s'ils ajoutent un programme privateur, la combinaison n'est plus libre. Un système d'exploitation est une collection de beaucoup de programmes, des milliers d'habitude. Si un des programmes dans la collection est privateur, il prive de la liberté aux utilisateurs. Donc la collection comme système prive de la liberté par ce composant privateur. Pour que la collection respecte la liberté, dans sa totalité, chaque composant doit respecter la liberté de l'utilisateur. Il y a plus de 1000 distributions ou variantes de GNU et Linux, et presque toutes contiennent des programmes privateurs, mais il y a quelques peu qui sont complètement libres. Regarde gnu.org/distros. pour la liste des distributions libres et les problèmes des distributions pas libres. Mais quels sont les problèmes? Généralement, quels maux font les distributions privateurs? D'abord, les utilisateurs les installent et n'arrivent pas à la liberté. Par exemple, si tu installes la distribution pas libre Ubuntu, tu n'arrives pas à la liberté parce qu'il installe automatiquement des programmes privateurs. C'est beaucoup mieux que d'utiliser Windows ou macOS, bien sûr, mais on n'arrive pas vraiment à la liberté avec Ubuntu. Mais l'autre mal qui est plus important, c'est que ces distributions pas libres ont beaucoup d'influence sur les pensées de la communauté. Et leurs développeurs utilisent cette influence pour promouvoir le refus de valoriser la liberté. L'influence à suivre leur exemple de ne pas respecter la liberté. Par exemple, dans le cas d'Ubuntu, les développeurs pourraient dire vous méritez la liberté dans votre informatique et pour l'avoir, il faut choisir une autre distribution. Mais évidemment, ils ne le disent pas. Ils disent plutôt nous essayons de vous offrir la meilleure possible expérience d'utilisateur. Quoi?
Donc maintenant, quand on installe Ubuntu, immédiatement il dit que c'est pas libre.
Ah bon, c'est une amélioration, mais je suppose qu'ils disent toujours qu'ils offrent la meilleure possible expérience d'utilisateur. J'ai vu dans le passé les textes qu'ils publient, qu'ils disent, parce que tout, ce n'est pas toute la communication ce qui s'affiche dans l'installation du système. Ils ont aussi un site web où ils disent des choses au public. Et ce qu'ils disent, c'est sont basés sur les valeurs de la commodité, pas sur la liberté. Donc, comment est-ce qu'on enseigne des valeurs par les mots et les actes? Si tu bases tes paroles et tes actes sur des valeurs, tu les enseignes. Les distributions pas libres enseignent les valeurs de la commodité et enseignent aussi de ne pas valoriser autant la liberté. Et elles ont beaucoup d'influence comme ça. Directement au contraire du mouvement de logiciels libres. Si tu installes une distro complètement libre, tu n'as pas de logiciel privateur, mais les programmes privateurs peuvent entrer dans le navigateur, parce que beaucoup de pages web contiennent des programmes d'habitude écrits dans le langage JavaScript. C'est un détail technique qui n'est pas vraiment important, mais nous pouvons identifier ces programmes en disant ce sont les programmes en JavaScript. Ces programmes peuvent être libres ou privateurs comme n'importe quel programme. Et quelques se sont libres, mais la majorité est privateur et privatrice. Donc, tu es en danger d'exécuter des programmes privateurs dont quelques-uns sont malicieux. Ça, c'était quoi? Quelque chose a sonné. Ah! Si tu portes un dispositif de cliquage, viens essayer de l'éteindre. Donc, pour nous protéger des programmes privateurs dans les pages, nous avons développé le programme LibreJS. Une extension pour Firefox qui analyse tous les programmes en JavaScript qui viennent dans les pages pour déterminer si chaque programme est libre ou trivial. Et dans ces deux cas, il le permet de s'exécuter. Mais si le programme est privateur et pas trivial, LibreJS le bloque, l'interdit d'exécuter. Il fait une chose de plus, il cherche dans les pages comment, où et comment se plaindre à la gestion du site pour faciliter l'envoi des plaintes. Si tu as une fois essayé de te plaindre à la gestion d'un site, tu sais que l'aspect difficile est de trouver comment et où. Mais avec LibreJS, c'est automatique. Tu peux te plaindre dans une minute. Et c'est très important de le faire pour pressionner la gestion de beaucoup de sites à corriger ce problème. Il y a une autre manière de perdre le contrôle de ton informatique. La manière classique est de le faire avec un programme privateur. Comme ça, ton informatique se fait dans ton ordinateur, mais tu n'en as pas le contrôle parce que tu n'as pas le contrôle de ce programme privateur qui fait l'informatique. Et ce piège existe toujours, mais maintenant il y a un autre. C'est de confier cette activité informatique au serveur d'un autre. Et comme ça, c'est lui qui a le contrôle de ton informatique. C'est lui qui décide quel programme à mettre dans son ordinateur à lui qui font ton informatique. Donc, pour avoir le contrôle de ton informatique, tu dois refuser de la confier au serveur d'un autre. Nous, les utilisateurs, pouvons avoir le contrôle d'un programme parce que le programme est une œuvre. Il existe en des copies. Moi, je peux avoir une copie, tu peux avoir une copie, et comme ça, nous pouvons avoir le contrôle de ces copies. C'est possible. Mais d'un service géré par un autre, nous ne pouvons pas avoir le contrôle. C'est impossible. Pour utiliser le service, tu n'as pas de copie de la service. Donc, même s'il était possible de changer le service, tu n'as pas de copie à changer. Et évidemment, tu n'as pas le droit de changer le service qu'il fait lui. Donc, si tu confies ton informatique au service qu'il fait lui, c'est lui qui a le contrôle, c'est inévitable. Donc, il faut ne jamais utiliser un service pour faire ce qu'un programme pourrait faire. Si tu fais de l'informatique comme programme pourrait faire, il faut refuser de le confier à un service. Et ce problème, ce piège s'applique aux activités informatiques que tu pourrais faire en exécutant un programme dans ton ordinateur. C'est-à-dire les activités que tu pourrais faire sans communication avec les autres. Et il y a beaucoup de telles activités. Par exemple, la traduction. Si tu avais un programme ADK pour traduire l'anglais en français, tu pourrais faire les traductions dans ton ordinateur sans montrer à personne le texte que tu es en train de traduire. Pour ça, les services de traduction sont injustes parce qu'ils nous privent du contrôle que nous pourrions avoir et que nous donc méritons d'avoir. Mais il y a d'autres activités de communication dans lesquelles la communication est une partie essentielle de l'activité. Et dans ce cas, personne ne peut avoir complètement le contrôle de cette activité. Si tu te communiques avec moi, ni toi ni moi peut avoir 100% le contrôle de cette activité dans laquelle nous participons tous les deux. Donc, dans un tel cas, l'utilisation des serveurs est normale. Pour que ton ordinateur et mon ordinateur se communiquent, il faut le réseau. Il faut la participation de beaucoup d'ordinateurs dans le réseau entre ton ordinateur et mon ordinateur. Mais quand il s'agit de faire quelque chose que tu peux faire seul, il est injuste de te faire confier cette activité à un autre. Nous voulons être libres, mais il y a des obstacles. Les entreprises qui soumettent les utilisateurs gagnent beaucoup d'argent et utilisent cet argent pour construire des obstacles, pour bloquer l'échappatoire. C'est-à-dire, elles construisent l'inertie sociale et donner ce concept, tu pourras identifier beaucoup de formes de l'inertie sociale. Par exemple, il y a des produits, des périphériques qui ne marchent qu'avec un système privateur. Dans les PC, il y avait beaucoup de modems qui ne fonctionnaient qu'avec Windows. Aucun code n'était disponible pour les faire fonctionner, sauf pour Windows. Évidemment, parce que Microsoft avait fait un contrat avec le fabricant du modem. Voici l'inertie sociale en forme concrète, artificielle. Ce n'était pas un phénomène naturel. C'était la politique de Microsoft de créer de l'inertie. Aussi, quand les écoles enseignent un système privateur et les entreprises utilisent ce système privateur, les entreprises disent nous devons utiliser ce système parce que c'est ce que les écoles enseignent. Et les écoles disent nous devons enseigner ce système parce que c'est ce que les entreprises s'attendent, et chacun attend l'autre pour changer. Voici l'inertie sociale. Et quand il y a des entreprises ou des institutions qui exigent l'utilisation d'un format de fichier qui est secret, voici aussi l'inertie sociale. Si tes amis ou tes familiers t'exigent d'utiliser Skype pour te communiquer avec eux, voici l'inertie sociale. Mais c'est ton devoir de refuser. Parce que si tu acceptes d'utiliser Skype, c'est un programme privateur, et donc toi, tu pressionnes les autres à utiliser Skype. En acceptant d'être victime, tu deviens coupable. Quand ces entreprises se présentent, il faut nous manifester. Autre obstacle est l'expression open source, qui a été inventée comme réaction contre le mouvement de logiciels libres. À l'année 98, quelques-uns dans la communauté de logiciels libres qui aimaient le logiciel libre, qui participaient vraiment dans la communauté, mais n'étaient pas d'accord avec notre philosophie politique, voulait pouvoir parler de la même gamme de programmes sans poser aucune question éthique. Il voulait pouvoir avoir un discours complètement superficiel et pratique. Donc, avec l'autre expression, ils avaient l'opportunité de le faire. Nous disons, si tu développes et distribues un programme, c'est ton devoir éthique de respecter la liberté des utilisateurs de changer et redistribuer ce programme. Eux, ils disent, si tu développes et distribues un programme, il peut être de ton intérêt pratique de permettre que les utilisateurs changent et redistribuent ce programme, parce que comme ça, ils peuvent améliorer la qualité du code du programme. Voici la différence de valeurs. Pour nous, les valeurs sont liberté et communauté. Pour eux, qualité du code. C'est parce qu'ils voulaient solliciter l'appui des exécutifs, des chefs d'entreprise. Ils voulaient donc éviter à tout prix de critiquer les modèles de négoce communs. mais la majorité était de leur côté, et les entreprises étaient de leur côté, les journalistes et les politiciens, par la majorité, se sont mis de leur côté, et depuis 98, il faut faire toujours un effort pour informer les utilisateurs de nos programmes et de notre système GNU, qu'il s'agit de logiciels libres et qu'il y a un mouvement logiciel libre et quelles sont nos idées. Parce que pour la plupart, c'est caché derrière l'autre philosophie d'open source. La majorité de ceux qui connaissent mon nom me prennent pour quelqu'un qui a pris l'open source. Ils supposent que je suis d'accord avec eux. Ce n'est pas vrai. Même pire, j'ai vu des articles qui m'appellent le père de l'open source. Oh. Que faire? J'envoie une lettre à l'éditeur disant, si je suis le père de l'open source, il a été conçu par l'insémination artificielle avec de la sémence volée sans mon autorisation. Puis j'explique les idées du logiciel libre et le nom logiciel libre. Et voici le but de la lettre, mais j'aime bien commencer par une blague. Mais je ne peux pas faire assez. Il faut un effort constant et grand. Nous avons besoin de vous. Vous pouvez informer les autres qu'il y a que notre système, que notre communauté existe à cause d'un mouvement libertaire. C'est le mouvement logiciel libre qui a créé ce système et pas le non-mouvement open source. C'est leur choix de ne pas être un mouvement, de ne pas lutter. Selon eux, il n'y a pas de pourquoi lutter. Pas besoin de lutter. Pourquoi lutter? Pour qualité de code. Mais pour nous, il y a quelque chose pour laquelle lutter. Notre liberté, les droits de l'humain. Donc, ta posture politique est à toi. Tu peux promouvoir l'open source, tu peux promouvoir le logiciel libre, c'est ton choix. Mais si tu es d'accord avec le logiciel libre, prière de le dire clairement toujours, prière de ne pas permettre que ce soit caché derrière open source. Mais un autre obstacle, c'est que beaucoup de produits physiques ne peuvent pas être gérés par du logiciel libre parce que leur mode d'emploi est secret. C'est une pratique injuste, mais commune. Ils te vendent le produit et refusent de te dire comment l'utiliser. En lieu de t'informer, ils disent « Voici le programme privateur pour contrôler notre produit, tu dois l'utiliser. » Mais nous ne pouvons pas l'utiliser. Donc il faut faire de l'ingénierie inverse pour découvrir le mode d'emploi du produit. Puis, quelqu'un d'autre peut écrire le remplacement libre pour gérer le produit. Si tu veux faire une contribution technique, un apport, une contribution technique très importante à la communauté libre, fais l'ingénierie inverse. Mais les les universités doivent enseigner des classes de l'ingénierie inverse pour quelques étudiants très avancés, évidemment. Mais c'est une carrière professionnelle très lucrative, donc il faut l'enseigner. Et aussi, c'est la manière nécessaire pour faire du progrès dans un théâtre de notre lutte. Quant aux écoles, les écoles doivent enseigner uniquement le logiciel libre, jamais le logiciel privateur. Et elles doivent expliquer pourquoi cette politique, en termes civiques, en termes des droits de l'humain, parce que enseigner un programme privateur est comme donner du logiciel privateur aux jeunes est comme leur donner du tabac. C'est une manière de les rendre dépendants. C'est mauvais, il faut ne pas le faire. Les écoles ne doivent jamais enseigner à fumer du tabac ni utiliser du logiciel privateur. Les écoles doivent graduer des utilisateurs accoutumés au logiciel libre et prêts à participer dans une société numérique libre. Mais il y a aussi l'éducation morale pour former des bons citoyens disposés à aider les autres. Donc chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec le reste de la classe, y compris son code source, pour le cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances. Donc, il n'est pas autorisé d'apporter un programme privateur à cette classe, sauf pour faire de l'ingénierie inverse. L'école, pour donner le bon exemple, doit suivre sa propre règle. L'école doit apporter uniquement du logiciel libre à la classe et partager des copies avec tous qui veulent des copies, y compris du code source, sauf l'exercice de l'ingénierie inverse. Mais il y a aussi l'éducation même. L'école, parce que n'importe quel programme, tout programme incorpore des connaissances. Si le programme est privateur, il cache ses connaissances de l'étudiant. Tout est secret. Le programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit pas être toléré dans une école, sauf pour faire l'ingénierie inverse. Mais le programme libre offre ses connaissances à l'étudiant. Comment peut-on apprendre à écrire bien le code? En lisant beaucoup de code et écrivant beaucoup de code. Pour apprendre à écrire bien le code des grands programmes, il faut d'abord lire le code de beaucoup de grands programmes. Mais seulement le logiciel libre offre l'opportunité de lire le code des grands programmes qui s'utilisent. Puis, il faut écrire du code pour beaucoup de code pour des grands programmes. Mais il faut commencer par le petit. Ça veut dire d'écrire des petits changements dans des grands programmes que nous utilisons. Uniquement le logiciel libre offre cette opportunité. N'importe quelle école peut offrir l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation si elle est une école du logiciel libre. Les droits humains se dépendent les uns des autres. C'est-à-dire que si nous perdons un des droits humains, il devient difficile de protéger les autres. Maintenant, vu que nous utilisons l'informatique pour faire beaucoup de choses importantes dans la vie, le contrôle de notre informatique, c'est-à-dire le logiciel libre, est devenu un des droits humains essentiels pour maintenir les autres. Et parfois, la liberté exige des sacrifices. La vie est toujours comme ça. Heureusement, dans notre champ, les sacrifices ne sont pas grands. Il suffit de faire le sacrifice de la commodité. Peut-être quelque chose exige plus de travail sans un programme privateur. Mais si tu valorises la liberté, tu le feras. Celui qui refuse de faire des sacrifices pour sa liberté perd sa liberté. Et celui qui dit je refuse de j'utilise ce programme privateur parce que c'est plus commode et j'apprécie plus la commodité que ma liberté, ce qu'il dit, c'est qu'il ne valorise pas la liberté. Donc, nous pouvons le citer comme exemple de la sottise. Comment nous aider? Si tu es programmeur, si tu es bon programmeur, tu peux contribuer au programme libre. Au commencement, je te conseille de développer des fonctionnalités pour des programmes libres existants. Puis, en l'ayant fait des dizaines de fois, tu sauras commencer un programme nouveau et le faire bien et produire un résultat utile. Mais si tu ne sais pas programmer, tu peux faire d'autres choses également importantes. Par exemple, tu peux organiser le mouvement, organiser des groupes activistes. C'est très, très important. Tu peux persuader des écoles et des États à migrer au logiciel libre. Si tu éduques l'État suisse sur pourquoi l'utilisation d'un programme de Windows ou de n'importe quel programme privateur abîme la souveraineté informatique du pays. Et c'est une dérogation du devoir de maintenir le contrôle complet de l'informatique du peuple. L'État a le devoir de maintenir complètement le contrôle de l'informatique parce qu'il fait cette informatique pour le peuple. C'est un devoir devant le peuple. Et si l'État utilise un programme privateur ou s'il confie son informatique au serveur de quelqu'un d'autre, voici l'État je ne sais pas le dire en français, c'est dommage. Seulement les mots espagnols entrent dans ma mentalité. It's a failure. Comment dit-on? C'est un échec, mais non, c'est pas une défaite, c'est de ne pas essayer, ne pas faire la responsabilité. Renoncer, mais non, ce n'est pas une question de refuser ouvertement, mais de ne pas faire l'effort.
Un manquement.
Une capitulation, oui, au pouvoir des entreprises. Je ne sais pas le dire, mais je suppose que maintenant vous comprenez. En espagnol, incumplimiento de la responsabilidad. Quant aux États, nous avons une page gnu.org/philosophy/ governmentfreesoftware.html qui présente les politiques proposées de l'État pour migrer au logiciel libre à travers du temps, parce que migrer dans une semaine est impossible. Il faudra du temps. Mais il faut au moins faire des étapes pour y arriver dans des années ou peut-être des décennies et pas dans des siècles. Et quant aux écoles, il y a blue.org/education. Si tu es expert dans l'utilisation du système, tu peux aider les autres. Tu peux lancer un groupe d'utilisateurs GNU et Linux. Ça aussi contribue. Et tu peux dire free software ou logiciel libre et jamais open source. Surtout dans une discussion où les autres disent open source, tu as l'opportunité de démontrer qu'il y a un autre point de vue qui valorise la justice et la liberté et pas seulement les bons résultats pratiques. Il y a beaucoup d'autres manières. Regarde gnu.org/help pour la liste d'autres manières de nous aider. Dans gnu.org, il y a aussi /distros pour les distributions libres et les distributions pas libres. gnu.org/licenses pour toutes les informations au sujet de quelles licences sont libres, quelles licences sont privatrices, et entre les licences libres, quelles sont les différences? Quelles licences sont meilleures? Quelles licences sont inférieures? Comment choisir une licence selon les détails du cas? Il y a aussi gnu.org/gnu qui présente l'histoire du projet GNU. Il y a gnu.org/philosophy qui présente des dizaines d'articles sur des questions politiques, éthiques ou philosophiques sur le logiciel libre ou relationné. Il y a aussi fsf.org. Entre autres choses, tu peux y t'inscrire dans le Free Software Foundation. Mais vu que je suis présent aujourd'hui, tu as l'opportunité de t'inscrire en payant ta cotisation annuelle en liquide. Mais voici, le logiciel pas libre est la menace fondamentale à la liberté numérique. Mais il y a d'autres menaces. Par exemple, le flicage. Le flicage, parfois, est fait par les programmes privateurs, mais pas uniquement comme ça. Oui, ils essaient de nous fliquer par nos produits informatiques, mais si le logiciel dans le produit est libre, nous pouvons bloquer le flicage par ce produit, mais ils nous fliquent aussi par des systèmes qui ne nous appartiennent pas. C'est autre type de problème. Dans ce cas, nous ne pouvons pas le bloquer par le seul logiciel libre. Par exemple, les fournisseurs d'accès sont, dans beaucoup de pays, obligés de fliquer leurs clients. C'est une injustice énorme. Et pour justifier cette injustice, ils proposent des petites excuses, comme par exemple le petit danger de terroriste. C'est un petit danger comparé à d'autres dangers, comme les voitures, par exemple. En Europe, les voitures sont beaucoup plus dangereuses que les terroristes. c'est toujours comme ça. Mais les politiciens exagèrent le danger pour et pas l'autre, parce que les terroristes sont très utiles comme excuse pour attaquer la liberté des gens. Et voici ce qu'ils font en Suisse. Quelqu'un m'a expliqué le changement dans le SwissPass pour fliquer les gens. Le vieux SwissPass ne fliquait pas, mais le remplace par autre qui flique, qui exige de s'identifier pour chaque autobus, chaque train. Il faut s'organiser pour exiger le renversement de ce changement, de revenir au SwissPass ancien, parce que la liberté vaut énormément. Mais il y a beaucoup de propositions de fliquer, beaucoup de systèmes de fliquer. Dans le cas des fournisseurs, les gens sont fliqués par un service qu'ils doivent utiliser, par des systèmes qui appartiennent au service et pas à l'utilisateur. Mais il y a aussi des systèmes uniquement pour fliquer les gens. Par exemple, des systèmes de caméras dans les rues pour reconnaître les visages ou les matriculés des voitures. Il faut imposer des limites légaux à ces systèmes. Que le système reconnaisse uniquement les personnes ou les voitures recherchées par ordre du tribunal. Comme ça, ces systèmes peuvent servir quand il y a un vrai besoin légitime, mais ne servent pas pour fliquer tout le monde. Il y a aussi il y a beaucoup de caméras pour décourager les crimes. Et ça, c'est utile. Mais il y a une distinction entre le caméra de sécurité et le caméra de flicage. Le caméra de sécurité enregistre localement et garde cet enregistrement pour quelque temps, et puis écrit quelque chose d'autre. Et comme ça, s'il y a un crime, il vaut la peine d'y aller pour copier les données et les analyser. Mais on ne peut pas le faire tous les jours. Ce serait trop difficile, trop de travail. Mais la caméra de flicage est liée au réseau et peut être observée à distance tout le temps. Donc, il se prête au flicage universel. Donc, il faut interdire que les caméras soient connectées au réseau quand le caméra regarde le lieu où le public est admis. À l'intérieur de chez toi, c'est autre chose. Ça ne concerne que toi. Bon, mais quand la caméra observe un lieu où le public est admis, il doit être soumis à ce limite pour protéger la liberté des gens. Parce que le flicage universel met en danger la démocratie même. La démocratie est que le peuple ait le contrôle de l'État. Mais l'État a la tendance d'agir en secret. Et comment donc exercer le contrôle? Il faut les lanceurs d'alerte, les héros comme Edward Snowden, pour savoir ce que fait l'État pour exercer le contrôle. Mais l'État appelle les lanceurs d'alerte des criminels et essaie de les mettre en prison. Et si l'État sait toujours qui parle avec qui va où, il peut toujours détecter les lanceurs d'alerte pour les mettre en prison. Et il n'y en aurait personne. Donc, fin à la démocratie. Fin à au journalisme, parce que les sources seraient toujours en danger. Il faut donc assurer que le niveau de flicage ne suffise pas pour pouvoir identifier généralement les sources des journalistes. Maintenant, le niveau de flicage est trop haut. Il faut le réduire. Pour plus d'arguments et des suggestions pratiques, regarde gnu.org/philosophy/surveillance-vs-democracy.html. Autre menace à notre liberté est la censure. Il y a 20 ans, nous pensions que censurer l'Internet serait trop difficile, qu'avec l'Internet, la censure serait vaincue. Évidemment, ce n'est pas vrai. Il est clair maintenant que les États peuvent censurer l'Internet de manière adéquate pour leur but. Pas 100%, mais ils n'ont pas besoin de 100%. Et ce n'est pas que les États évidemment tyranniques comme la Chine et l'Iran qui censurent l'Internet. Même les États prétendant libres comme la Finlande censurent l'Internet. En 2006, il a imposé des blocages, des filtrages obligatoires pour bloquer le porno. Ce n'est pas une bonne excuse, parce que la censure est plus dangereuse que n'importe quelle œuvre publiée. Mais quelqu'un voulait faire une œuvre de journalisme en investiguant la censure. Donc il a ramassé une liste de sites peut-être bloqués, et il a essayé chaque site, et a fait une liste des sites vraiment bloqués, et l'a publié, et ils ont bloqué l'accès à son site. Il a fait un procès. Enfin, le tribunal suprême finlandais a jugé en faveur de la censure de son site, de bloquer l'accès à son site. Bien que la loi ne parle pas de bloquer l'accès au site journalistique, uniquement au porno, mais le tribunal a décidé à comment dit-on tout, à faire la sentence. La censure. Mais ce site reste bloqué actuellement, mais uniquement depuis Finlande. Depuis l'étranger, on peut accéder facilement à ce site qui présente toujours la même liste de sites bloqués en 2007. Il n'essaie pas d'actualiser, de mettre à jour la liste. Pas besoin, il a déjà démontré l'injustice de l'État finlandais, mais pas seulement la Finlande censure l'Internet. Il y a quelques années, la première indication de ce que le président Erdogan voulait devenir le premier ministre à l'époque, Erdogan voulait devenir le tyran de la Turquie, était l'imposition de la censure à l'Internet en Turquie. Chaque internaute turc devait choisir entre la censure, plus de censure, même plus de censure, et censure et bravo les Turcs qui se sont manifestés dans les rues contre cette censure. Et plus tard, l'Angleterre a fait la même chose. Il y a le choix entre deux niveaux de censure. Les riches qui peuvent avoir une ligne privée peuvent opter pour moins de censure. Les autres sont n'ont pas d'option. Ceux qui utilisent l'accès public sont soumis à plus de censure. En Australie, il y a la censure des liens. Il y a des sites où il est interdit de faire des liens. L'organisation Electronic Frontier Australia a été sanctionnée avec une amende de $11,000 par jour de ne pas supprimer un lien vers un site politique étranger. Et ce n'était pas un site terroriste, non. C'était un site contre le droit à l'avortement. C'est-à-dire un site qui voulait tuer les femmes. Mais ils ont le droit de présenter leur point de vue, même en Australie. Respecter la liberté de l'expression veut dire respecter le droit de dire des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. En Inde, ils peuvent légalement ordonner de supprimer n'importe quelle chose d'un serveur s'il paraît d'offenser la religion. Évidemment, il n'y a pas la liberté de l'expression en Inde. Et récemment, un comédien a été arrêté pour se moquer ça, je ne sais pas. Je sais qu'il s'est moqué de quelqu'un qui était important dans une religion hindoue, je suppose, parce que le parti qui domine est théocratique, plus ou moins. Donc, la censure menace partout. La liberté d'expression comprend le droit de critiquer, d'offenser, d'insulter et de se moquer de n'importe qui et n'importe quoi. Il y a aussi la menace des serveurs d'Internet. Par exemple, des serveurs envoient des programmes privateurs en JavaScript au navigateur. J'ai déjà expliqué ce problème, il faut les bloquer. Et ce qu'ils devraient faire est de libérer ces programmes pour éliminer ce problème. Il y a aussi le flicage que les sites font. Par exemple, tu sais que Facebook ramasse beaucoup de données personnelles, mais Facebook flique aussi les gens. Si tu visites une page qui contient un bouton « like », Facebook sait que ton ordinateur a visité cette page parce que ton navigateur doit demander l'image et le code de ce bouton depuis le serveur de Facebook. le serveur sait à quelle adresse IP il a envoyé le bouton et sait pour quelle page, parce que le navigateur d'habitude dit c'est pour cette page. Et comme ça, Facebook peut fliquer tous les utilisateurs, sauf moi et les autres utilisateurs de notre navigateur IceCat, parce que IceCat bloque les boutons like et toutes les autres choses qui sont mises dans les pages pour fliquer. Mais il y a des sites qui ne marchent pas comme ça. Par exemple, il y a des revues, des sites revues qui disent qu'ils refuseraient l'accès à ceux qui bloquent la surveillance. Il faut ne pas les visiter. C'est dommage. Parfois, la liberté exige un sacrifice. Il y a une revue vient d'annoncer que dans le futur, pour ne pas être fliqué par les annonces, il faudra avoir un abonnement et donc être fliqué. Non, merci. Je ne lirai plus les articles de ce site. C'est dommage parce que j'ai publié des articles dans ce site. Non plus, évidemment. Mais, hormis le flicage, les sites demandent ouvertement beaucoup de données personnelles et offrent d'héberger nos données. Mais, voici aussi du flicage. Par exemple, j'ai lu que Facebook vend toutes les données sur chaque utilisateur, sauf quelque peu de données comme le nom et l'adresse, etc. Donc ils enlèvent les données qui identifient directement l'utilisateur et gardent presque toutes les données à vendre ensemble aux autres entreprises. Et ces entreprises relient toutes ces données avec le nom en utilisant d'autres sources de données. Et cette entreprise n'a pas de contrat avec l'utilisateur, donc elle peut faire n'importe quoi. Il faut refuser les services qui ramassent des données personnelles. Je visite des sites, mais je ne m'identifie pas. Et je connecte à travers Tor pour que le site ne sache pas où je suis. Et comme ça, je cache mon identité. Et je peux naviguer. Je ne peux pas utiliser les services. Je ne veux pas utiliser les services si je dois être identifié. Il faut un système de paiement anonyme. Et nous sommes en train de le développer. Il s'appelle GNU Taller. Et son site est taller.net. C'est un système, ce n'est pas une monnaie, c'est un système de paiement anonyme. Et le but est de pouvoir acheter quelque chose depuis un site à l'anonymat. Et si je pouvais acheter l'accès à un article comme ça, je le ferais. S'il y a rien, parce que pour moi, payer n'est pas injuste. Mais il y a d'autres injustices. Être fliqué est injuste. Signer un contrat qui restreint plus étroitement que le droit d'auteur même est injuste. Les menottes numériques, le DRM, est injuste. Mais si un site m'offre de me vendre l'accès à une page sans DRM, sans contrat et sans m'identifier, je peux le faire. Je serais peut-être d'accord à le faire. Il faut remplacer les systèmes injustes par un système de vente à l'anonymat en ligne. Autre injustice est l'utilisation des ordinateurs pour voter. On ne doit pas confier aux ordinateurs pour les votations. Il est trop facile de faire de la fraude invisible, centralisée. Avec les papiers, avec les bulletins de vote, oui, la fraude est possible, mais la fraude massive est très difficile à cacher. Plus grande, plus difficile à cacher. Mais dans l'ordinateur, cacher la fraude est le même travail, quoi que soit la taille de la fraude. Et uniquement des experts sont capables de détecter la fraude, mais même, peut-être même pas les experts. Si une équipe d'experts a étudié le programme il y a 2 mois et a jugé que ce programme est correct, comment savoir que le programme qui tourne aujourd'hui pendant l'élection est le même? Peut-être quelqu'un a installé un programme modifié ce matin et remplacera le programme autorisé ce soir après d'avoir compté incorrectement les votes. Avec les papiers, on peut vérifier les chiffres. Mais avec l'ordinateur à voter, il n'y a que des chiffres à la fin. Donc, aucune manière de vérifier que ces chiffres soient corrects. Il faut donc refuser l'utilisation des ordinateurs dans les votations. Mais voter par Internet est complètement faux. Il y a une page dans Stallman.org avec des liens aux études qui ont trouvé des erreurs horribles dans les systèmes à voter. Par exemple, Estonia utilise le vote par Internet et l'équipe a étudié leur pratique et a reconnu quelque chose de très intéressant. L'adversaire n'est pas un groupe d'étudiants ni un groupe criminel. Le vrai adversaire auquel il faut protéger l'élection d'Estonie est l'armée d'Internet de la Russie. Ce n'est pas très facile de protéger la sécurité de quoi que ce soit contre une puissante armée de l'Internet. Aussi, il y a un autre problème avec les ordinateurs pour voter, c'est que l'écran, si la machine utilise un écran, on peut regarder l'écran depuis l'extérieur du bâtiment. Parce que l'écran, d'habitude, génère des ondes électromagnétiques qui peuvent être visualisées par une autre machine à quelque distance. S'il n'y a qu'une personne qui vote à la fois, c'est-à-dire si le flux de voteurs est assez faible, on peut savoir toujours qui est en train de voter. Et en regardant l'écran, on sait comment chacun a voté. Dangereux. Mais pour voter par Internet, si tu votes depuis, même si le serveur est bien protégé. Tu votes depuis une autre machine. Si ta machine est zombie, le botnet choisira ton vote. Et il y a aussi le danger de ce que ton époux ou ton chef t'exige de voter devant lui pour assurer que tu votes comme lui préfère, comme lui ordonne. Non, on ne peut pas le faire. Autre menace à la liberté numérique, c'est la guerre contre le partage. La technologie numérique est avantageuse parce qu'elle facilite la manipulation de l'information, de transmettre, de changer, de copier les informations. Mais il y en a qui ne veulent pas que ce soit facile pour nous, c'est-à-dire les éditeurs qui veulent imposer le contrôle total de ce que nous faisons dans l'informatique. Ils ont mené depuis des décennies une guerre contre le partage de copies. Ils ont commencé par la propagande. Ils appellent d'habitude le partage comme piraterie. C'est une insulte parce que la piraterie est d'attaquer les navires. Je suis certain qu'il n'y a pas de piraterie en Suisse. Où pourrait-elle être au lac Léman, peut-être? Mais quand ils appellent piraterie le partage, c'est faux, parce que attaquer les navires est très très mauvais, mais partager est bon. Il faut donc ne pas les appeler par le même mot. Quand les gens me demandent ce que je pense de la piraterie, je dis attaquer les navires est très très mauvais, il faut envoyer le marin, la marine pour mettre fin à la piraterie. Mais s'ils ne faisaient que la propagande, ne serait pas une guerre. Ils ont le droit d'exprimer leur point de vue. Mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont commencé depuis 30 ans, il y a 30 ans, le processus de corrompre nos produits informatiques pour les convertir dans notre gardien de prison. Leur but est de nous restreindre, de nous contrôler, pas de nous servir. Ils ont mis les menottes numériques dans le support physique et dans les programmes. Mais ça ne suffisait pas au commencement parce que le peuple a découvert des manières de rompre les menottes. Donc, ils ont imposé dans beaucoup de pays, comme par exemple à l'Union européenne, des lois qui interdisent de rompre les menottes ou de distribuer comment rompre les menottes. Mais ça ne suffisait pas, donc ils ont commencé à faire des procès pour des centaines de des milliers de dollars aux adolescents qui partagent. Puis ils ont commencé à éliminer le principe fondamental de la justice. Aucune punition sans processus juste. Mais ils veulent l'impression d'avoir partagé. En Angleterre, ils ont imposé une telle loi, et dans beaucoup d'autres pays aussi. En Espagne, je crois, et je suis certain qu'en Panama et en Corée du Sud, en Colombie, un traité de soumission aux négoces aux entreprises avec les États-Unis exige une telle loi, mais le tribunal suprême l'a rejeté deux fois, mais il n'arrête pas d'essayer. Et je crois qu'aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils ont imposé de telles lois. Mais ça ne suffit pas. Au Japon, ils ont imposé la peine de 2 ans en prison pour décharger une copie sans autorisation de n'importe quoi. Mais évidemment, ils feraient n'importe quoi, n'importe quelle injustice aux gens pour mettre fin à la coopération entre les gens. Ce n'est pas que les mesures qui sont injustes, c'est le but. Avec la technologie numérique, partager est facile et partager est bon. Donc les gens partagent. Et la seule manière de les empêcher de partager est d'imposer des punitions cruelles et draconiennes. Il faut mettre fin à cette guerre en légalisant le partage. Il faut assurer à tout le monde le droit de partager des copies de n'importe quelle œuvre publiée. Et partager signifie la redistribution non commerciale des copies exactes. Voici la liberté minimale qui doit s'appliquer à n'importe quelle œuvre publiée. Mais les éditeurs disent que leurs punitions, que leurs injustices sont pour appuyer bien les artistes. C'est 95% mensonge et 5% vérité. Ils essaient de nous faire accepter la bizarre idée de ce que si tu apprécies l'œuvre de quelqu'un, tu lui dois de l'argent. Tu as le devoir de le récompenser, de le rémunérer. C'est absurde. Quand est-ce que tu dois rémunérer un artiste? Si tu l'invites à faire un travail pour toi et il fait le travail, tu dois le rémunérer. En ce cas, oui. Mais si tu apprécies une œuvre, ça ne t'impose aucune dette. Tu ne lui dois rien, tu n'as pas le devoir de le compenser ni de lui rémunérer. Mais et l'autre tromperie qu'ils font est quand ils parlent de l'ayant droit. Ils disent qu'il faut imposer aux gens qu'ils récompensent les ayants droit. Nous sommes censés penser qu'il s'agissait des artistes, tandis qu'en vérité, il s'agit des éditeurs. Donc, je refuse quoi que ce soit pour les ayants droit, pour donner de l'argent aux ayants droit. Mais si nous apprécions les arts, nous devons appuyer les artistes. Donc, je veux appuyer mieux les artistes et je propose deux systèmes pour le faire mieux. D'abord, je trouve acceptable la vente de copies. Je ne propose pas de le changer. Les artistes et les auteurs peuvent vendre des copies. Aussi, vendre des admissions aux actes de théâtre, aux concerts, pourquoi pas. donc je ne propose pas de le changer. Mais si ça ne suffit pas, qu'est-ce que nous devons faire pour appuyer mieux les arts sans justifier la guerre contre le partage? J'ai proposé deux systèmes pour le faire. Un système fonctionne par l'État. L'État peut mettre quelques sommes d'argent chaque an pour distribuer entre les artistes selon le succès de chacun. Il faudra mesurer le succès par des sondages ou par compter la fréquence de partager leurs œuvres dans les réseaux. Mais enfin, donner un chiffre de succès pour chaque artiste, combien d'argent est-ce qu'il reçoit? L'idée évidente est de distribuer l'argent en proportion linéaire au succès de chacun. Mais ça produirait de mauvais résultats parce que le star peut être beaucoup, peut avoir beaucoup plus de succès que le non-star. Si A est star, A peut facilement avoir 1000 fois le succès de B. B étant un artiste apprécié et talentueux, mais pas star. Avec la proportion linéaire, A recevrait 1000 fois l'argent de B. Donc, pour que B reçoive ainsi assez d'argent pour ses besoins, il faudrait faire A très très riche. C'était un gaspillage de notre argent. Avec la proportion linéaire, la grande majorité du total serait pour les stars, donc gaspillé. Donc je propose de calculer la racine cubique du chiffre de succès de chaque artiste. La racine cubique de 1000 est 10. Donc avec la racine cubique, si A et une star et a 1000 fois le succès de B, A recevrait 10 fois l'argent de B. Pas 1000 fois l'argent, seulement 10 fois l'argent. L'effet d'utiliser la racine cubique et de transférer la majorité de l'argent des stars aux artistes de succès moyen ou plus d'argent peut vraiment aider quelque chose dans les arts. Chaque star toujours recevrait plus d'argent qu'un non-star, mais pas énormément plus, seulement quelque chose de plus. Donc, vu que la quantité de stars est réduite, les stars ne recevraient pas la majorité de l'argent. La majorité serait pour les artistes de succès moyen. Et donc nous aurons un système qui appuierait de manière efficiente les arts, où il faut plus d'appui. L'autre système que je propose fonctionnerait par des paiements volontaires anonymes. Si chaque produit pour reproduire les œuvres a un bouton pour envoyer une petite somme aux artistes, on peut l'envoyer ou pas. Et combien chaque pays choisirait la somme pour maximiser le total envoyé chaque jour. Pour la Suisse, je proposerai peut-être 20 centimes. Je ne suis pas économiste. Un économiste pourrait faire un modèle et des calculs pour estimer la somme qui maximiserait le total que tous les gens envoient chaque jour. Moi, je ne peux faire qu'estimer. Mais si la somme est trop petite, beaucoup peuvent l'envoyer et le total serait peu. Mais si la somme est trop grande, peu enverraient cette somme. Je suppose donc qu'il y a une somme qui est optimale, c'est-à-dire pour que les gens envoient le plus aux artistes. Et puis, tu peux l'envoyer ou pas. Si tu n'es pas pauvre, tu peux le faire presque sans penser à si peu d'argent. Mais il y a, je suppose, même en Suisse, des pauvres. Il faut ne pas exiger que les pauvres apprennent les artistes. Mais en offrant aux pas pauvres l'opportunité de le faire volontairement, ils le feront parce que quand ils donnent aux artistes qui t'ont plu, tu te sens bien. C'est un plaisir d'avoir donné. Et tant que la somme n'est pas trop, il n'y a aucun sentiment désagréable dedans. Ah bon, je te donne quelque chose. Nous voyons que des paiements volontaires fonctionnent déjà. Il y a des systèmes de crowdfunding qui fonctionnent bien pour financer plusieurs types de projets, y compris des projets artistiques. Et ça fonctionne. Il y a beaucoup d'artistes qui sollicitent des donations et ils gagnent. Il y a des artistes qui publient des œuvres en disant « paye si tu veux » et beaucoup payent. Il y a quelques années, il y avait le Humble e-book bundle. Plusieurs auteurs de science-fiction ont publié une collection de romans en disant « paye si tu veux ». Ils ont reçu $1 million dans un mois. C'était l'équivalent d'être dans la liste best-seller du New York Times, chacun. Évidemment, ces systèmes peuvent fonctionner. On peut aussi combiner des aspects des deux idées. Il y a plusieurs manières de combiner les deux. Mais le point, c'est qu'il n'y a pas besoin de mener la guerre contre la communauté en interdisant le partage pour appuyer les artistes. Il y a beaucoup de manières d'appuyer les artistes. Le système actuel appuie très bien les éditeurs et les stars, et les autres artistes reçoivent très peu. Je ne sais pas traduire « trickle down ». Mais les riches reçoivent beaucoup et les autres reçoivent très peu. Donc, même jugé en termes du but d'appuyer les arts, le système actuel fonctionne mal. Il y a une autre menace à la liberté dans la société numérique, c'est que nous n'avons le droit de rien faire dans l'Internet. Si tu as quelque chose à dire au public, tu peux l'écrire sur un papier et te promener dans la rue pour montrer ton message aux gens. Et tu as le droit de le faire. Tu n'as pas besoin de l'appui d'une entreprise pour pouvoir le faire. Mais si tu veux faire la même chose dans l'Internet, tu as besoin des services d'un fournisseur d'accès, d'un hébergeur de site et d'un registre de nom de domaine. Et chacun peut te nier sa coopération presque arbitrairement. Je l'ai découvert, j'ai vu comment c'est une menace quand les États-Unis voulaient chasser Wikileaks de l'Internet, pas par un procès juridique, mais uniquement par l'intimidation des fournisseurs de services. Par exemple, WikiLeaks avait loué un serveur virtuel Amazon. Un officiel des États-Unis a menacé Amazon et Amazon a décidé que l'utilisation de leur serveur pour publier des filtrages enfreint les conditions de service, donc il a coupé le serveur. Puis, les officiels essayaient d'éliminer les noms de domaine de WikiLeaks. Mais heureusement, les États-Unis ne pouvaient pas éliminer wikileaks.ch. Puis, ils ont essayé de couper le courant de donation pour WikiLeaks. Et beaucoup d'entreprises de paiement ont annoncé la politique de refuser d'envoyer de l'argent à WikiLeaks pour leurs clients. C'était leurs clients qui voulaient donner à WikiLeaks. Et les entreprises, beaucoup d'entreprises de paiement ont refusé. Mais enfin, Visa et Mastercard ont refusé. Puis, une entreprise islandaise qui acceptait des paiements par des cartes de crédit pour ses services a offert d'accepter des paiements pour WikiLeaks. Les cartes de crédit ont coupé le service à cette entreprise. L'entreprise a demandé, a fait un procès, j'étais confondu par l'espagnol. L'entreprise a fait un procès contre Visa et Mastercard pour lui avoir coupé le service et a gagné. Le tribunal a ordonné Visa et Mastercard de rétablir le service à cette entreprise qui pouvait de nouveau accepter de l'argent pour WikiLeaks. Et pourquoi? Parce qu'il y a une loi. C'était la loi de l'Union européenne qui s'appliquait à cette époque aussi à Islande, qui dit que si l'entreprise a plus d'une fraction spécifiée de marché, il ne peut pas légalement couper le service à personne. Et voici les lois qu'il faut. À Boston, si tu loues un appartement, le propriétaire ne peut pas t'imposer n'importe quelle condition. La loi dit quelles sont les conditions acceptables. Et le propriétaire ne peut pas juger si tu as bien suivi les conditions. Non, c'est un tribunal qui juge. Le propriétaire, si tu ne paies pas le loyer, le propriétaire peut approcher le tribunal et démontrer que tu ne paies pas le loyer. Et enfin, il peut avoir un ordre pour t'expulser. Mais ce n'est pas lui qui décide. Et s'il met dans le contrat de loyer des conditions bizarres, elles n'ont pas de valeur légale. Il ne peut pas, par exemple, il ne peut pas t'exiger de raser la tête. Non. Il peut le mettre dans le contrat et tu peux le signer, mais enfin, quand il essaie de convaincre le juge de t'expulser parce que tu n'as pas rasé la tête, le juge dira, non, ce n'est pas une des conditions acceptables dans un tel contrat. Et enfin, les services importants de l'Internet doivent être régis par les mêmes principes. nous devons établir démocratiquement quelles sont les conditions de service. Et bien sûr, si tu ne payes pas de service, l'entreprise pourra obtenir l'ordre pour te couper le service. Mais pas arbitrairement, parce qu'ils n'aiment pas ce que tu dis au public. Ah. Est-ce que le petit gnou est arrivé? Oui. Merci beaucoup. Bien. Voici un petit gnou adorable. Maintenant, je vais le vendre aux enchères au bénéfice de la Free Software Foundation. Si tu l'achètes, je peux signer la carte pour toi. Si tu as un manchot chez toi, tu as besoin de gnou pour le manchot. Parce que le manchot ne peut guère fonctionner sans gnou. Jamais un manchot sans gnou. Quand tu enchéris, tu dois agiter la main et crier la quantité, la somme, pour que je prenne note, parce que j'ai des problèmes auditifs. Et n'attends pas que je te regarde pour crier. Non, il faut crier pour que je te regarde. Nous pouvons accepter le paiement en liquide ou par carte de crédit si elle peut faire des achats internationaux par téléphone ou carte n'importe quelle carte bancaire si elle peut faire des achats internationaux par téléphone. Aussi par Bitcoin, si tu as ici avec quoi faire le paiement. Et je commence avec le prix normal de 25 francs. Ah, j'ai 100. Est-ce que j'ai 110? 110 pour ce petit gnou adorable. 110. J'ai 100. Est-ce que j'ai 110? 110 à l'FSF. Combien? 110. N'attendez pas pour crier. J'ai 110, est-ce que j'ai 120?
120.
J'ai 120, est-ce que j'ai 130? 130 pour ce petit gnou adorable. J'ai 150, est-ce que j'ai 160? 160 pour ce petit gnou adorable. 160 ou plus à l'FSF pour protéger la liberté. 160 plus, dernière opportunité pour offrir 160 plus, dernière opportunité. Et 160, est-ce que j'ai 170?
100.
J'ai 200. Est-ce que j'ai 220? 220. Adorable. 220 à l'FSF pour protéger la liberté. 220 plus dernière opportunité. Dernière opportunité.
250.
J'ai 250. Est-ce que j'ai 275? 275 pour ce petit cadeau adorable. 255 à l'FSF pour protéger la liberté. J'ai 300. J'ai 300. Est-ce que j'ai 330? 330 pour ce petit gnou adorable. 330 à l'FSF pour défendre la liberté. Dernière opportunité pour obtenir 330. 330 plus. Dernière opportunité. 1, 2, 3. 3, vendu pour 300. J'avais oublié de mentionner avant. J'attendais le bon moment. Je parlais de la guerre contre le partage. Vos adversaires, les aristocrates, le remplacement moderne des abscours, sont en train de vous attaquer. Avec la coopération de l'État suisse, il propose un projet de loi de droit d'auteur pour attaquer la liberté des Suisses. Par exemple, il propose d'imposer la censure, le filtrage aux fournisseurs d'accès au nom du droit d'auteur. Et il propose aussi d'imposer quelque chose comme le DMCA aux États-Unis. Le DMCA est une loi qui fait plusieurs mauvaises choses, mais la mauvaise chose de ce qu'il s'agit ici, c'est que quand il y a un site qui est une plateforme pour publier des choses, n'importe qui peut dire aux plateformes, je dis que cette page enfreint mon droit d'auteur. Et la plateforme est obligée de l'enlever. Obligée, sans exception. Mais si enfin c'était une erreur, après 10 jours, je crois, la plateforme peut le publier de nouveau. Mais il faut être supprimé pour une période minimum. Et comme ça, c'est un outil pour la censure. Mais en Suisse, ils proposent de faire même pire, parce que des grandes entreprises comme Google ont fait des systèmes automatiques pour reconnaître quand la même chose soit publiée de nouveau, automatiquement, et le supprimer. Mais le projet de loi 6 imposerait de tels systèmes à toute plateforme de publication en Suisse, et les entreprises trop petites pour pouvoir le faire ne pourraient pas avoir de plateforme de publication. Aussi, ils veulent imposer aux fournisseurs d'accès de faire la délation de ses clients pour partager, c'est-à-dire la transcription des fournisseurs d'accès dans la guerre contre le partage. Ils veulent, je crois qu'ils ont fait déjà un autre mal, c'est-à-dire la conscription des individus dans cette guerre. Mais il faut résister, il faut maintenir des réseaux sans clé. Si tu mets une clé sur ton réseau, tu participes comme soldat d'occupation dans la guerre contre le partage. Mais il y a d'autres mauvaises choses dans ce projet de loi. Pour attaquer les bibliothèques, il propose d'imposer aux bibliothèques l'obligation de payer chaque prêt. Et après d'avoir parlé tant du besoin de soutenir le droit d'auteur, il propose d'attaquer la volonté des auteurs qui ont publié des œuvres sous des licences qui permettent des utilisations sous conditions, comme par exemple les licences de Creative Commons, ou la licence de documentation que j'ai écrit moi, le GNU Free Documentation License. Il propose que les sociétés j'ai oublié le nom en français, collecting societies, de les autoriser, quoi? Les
sociétés d'encaissement.
Sociétés de quoi?
Encaissement.
Oui, chaque société pourrait faire une licence complètement générale pour toutes les œuvres et à une entreprise. Et la seule obligation que l'entreprise aurait serait de payer. Donc l'entreprise serait autorisée à ne pas suivre les conditions que nous aurons mises pour l'utilisation gratuite de nos œuvres. En lieu de l'obligation de respecter les libertés des autres, il y aura l'obligation de nous payer et rien de plus. Mais pas directement, plutôt à travers de cette société d'encaissement dont nous ignorons d'habitude l'existence parce que nous sommes des étrangers. Comment saurait quelqu'un qui habite aux États-Unis ou en Mexique ou même en Belgique, qu'une société suisse a été autorisée à octroyer des licences générales pour toutes les œuvres? Évidemment, il ne saurait pas. Donc, 5 injustices dans un projet de loi. Il y a aussi des changements pour le bon. Par exemple, l'adhésion à 2 traités qui font des bonnes choses, mais on peut les faire seuls. Qui s'opposerait à, par exemple, permettre l'importation et l'exportation des versions pour les aveugles? Personne ne s'opposerait publiquement, les éditeurs en privé, oui, mais publiquement, ils n'oseraient pas le dire. Donc, l'État suisse peut s'adhérer à ces traités et seulement ça, sans faire les mauvaises choses proposées. Il y a une consultation qui dure à la fin de mars. Maintenant, il faut organiser contre ce projet de loi et proposer, en lieu de ces mauvais changements, la légalisation du partage et les autres systèmes pour appuyer, pas les ayants droit, mais plutôt les artistes. Regarde, gnu.org/philosophy/copyright-vs-community.html pour ce que je dis à ce sujet. Donc maintenant c'est le moment pour les questions. Et nous vendons des petits trucs, des petites marchandises de l'FSF dehors. Et il y a aussi des autocollants gratuits
possible à prendre. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de donner la parole à 2 ou 3 personnes. On va prendre 2 ou 3 questions.
Non, plus. C'est trop peu.
Alors, après, il y a aussi l'apéro qui attend dehors, donc les gens pourront aussi
changer. Non. Les questions sont importantes. Je dois répondre aux questions, mais pour le faire de manière efficiente.
On va faire comme ça. Tant qu'il y a des questions, c'est
oui,
bon.
Oui.
Et puis quand les gens vont trop faim.
Mais. Je propose de garder là le micro et que les gens fassent la queue pour du monde. Ça fonctionne efficace. Oh oui, nous pouvons avoir 2 queues, une à chaque côté. Donc, si vous venez ici, les gens peuvent. Non. Il faut ne pas transporter le micro. Si vous restez là, les gens doivent faire la queue ici, là, près de vous. ça fonctionne mieux.
Merci.
Je n'entends pas.
Rien de tel que marcher un peu pour. Rien de tel que de marcher un peu pour se dégourdir les jambes.
Vous avez... bah, je n'entends pas les consonnes que vous dites. Il faut me parler même plus lentement.
Excusez-moi. Alors, j'ai une question. Vous avez soulevé, attiré l'attention sur plusieurs menaces. Qu'est-ce que vous pensez des tentatives pour supprimer l'argent en paiement liquide, pour passer un système en paiement numérique?
C'est horrible. Moi, je ne paie pas, je ne paie que par, que pour qu'en liquide. La seule exception est pour les billets d'avion, parce qu'ils exigent de savoir qui je suis. Mais, hormis ça, je paie en liquide. Si une entreprise exige le paiement numérique, je dis non. Oh non, mais en vérité, je paie aussi mon assurance médicale, parce que ça aussi, mais en chèque. Je n'utilise pas la carte bancaire, mais je donne des chèques. Ça aussi m'identifie, mais ils savent qui je suis. Mais quand j'achète quelque chose, je paie toujours en liquide. Il faut payer en liquide, il faut rejeter le flicage. Dans la carte de crédit, voici le flicage.
Personne à la queue?
Je n'entends pas bien. Le micro peut-être ne fonctionne pas.
A-O-A. Je n'ai pas la carte de crédit et je me suis levée pour
vous. Je n'entends pas les mots que vous dites parce que vous parlez trop vite pour moi.
Je n'ai pas de carte de crédit. Et ma question, c'est, je me suis, ça fait seulement peut-être une année que j'ai connu le logiciel libre et je ne suis pas, je suis une personne lambda, je connais presque rien, mais grâce à mon copain qui m'a tout expliqué, je suis une utilisatrice de logiciels libres. Mais, merci. je voudrais vous remercier et je n'arrive pas à, sans carte de crédit, vous contacter pour vous donner quelque chose à votre association.
J'accepte les dons pour l'FSF ou pour moi. Donc l'autre, vu que je suis présent maintenant, voici votre non, opportunité.
Mais maintenant, je ne vais peut-être pas, parce que je ne suis pas riche, mais
je comprends.
Je voudrais de temps en temps faire quelque chose et je ne sais pas comment donner.
Ah, s'il s'agit de donner à l'FSF, nous acceptons les bitcoins. Hormis ça, je n'ai rien à proposer maintenant, mais notre système GNU Tower, nous voudrions mettre en fonction et comme ça, il sera possible de donner de l'argent à une organisation qui participe dans le système.
Il y a quelque chose comme l'idée que vous avez expliqué par rapport aux artistes, quelque chose qui se ressemble à ça, vous dites?
Non. Il y a des manières de donner de l'argent aux artistes, mais vous connaissez les systèmes actuels de paiement. Par exemple, ils fonctionnent peut-être par PayPal ou par carte bancaire. Les systèmes que je propose sont deux. Un qui fonctionnerait à travers l'État. L'État ramasserait de l'argent pour le distribuer entre les artistes. Évidemment, ça ne se fait pas. Mais, et l'autre serait par les paiements volontaires, mais pour que ce soit éthique, il doit être anonyme. Et donc, il faudrait quelque chose comme notre système Blue Tower pour être la base d'envoyer l'argent à l'anonymat.
Site,
je n'entends pas bien.
Que j'aimerais être informé, savoir que Blue Tower existe et qu'il est disponible.
Ah, je ne sais pas. Je suppose que nous diffuserions la nouvelle. Ah, nous avons oublié de mettre un papier pour t'inscrire dans notre liste d'annonces mensuelles. Mais si quelqu'un peut mettre des papiers pour écrire les noms et les adresses de courriel, c'est une manière d'avoir des nouvelles de nous.
Comment, par rapport à ce changement de la loi,
pas.
Par rapport au changement de loi dont vous avez parlé en Suisse, est-ce que vous avez prévu de lancer une pétition en ligne?
Moi, non. Je suis étranger. Les Suisses doivent le faire.
Vous avez pas entendu parler que quelqu'un l'a déjà fait?
Quelqu'un qui a organisé ma visite à Berne, il s'appelle Matthias Stürmer, je crois, a une organisation qui s'oppose à ce projet de loi. Mais je ne connais pas les détails. Il faudrait le chercher. Mais chacun peut répondre à la consultation. Mais évidemment, il faut aller plus loin. Il faut organiser contre ce projet de loi. Je crois qu'il y a une organisation plus générale qui s'oppose à ce projet de loi, mais peut-être il faut lancer une organisation spécifiquement contre les injustices du droit d'auteur. Et donc, vous pouvez le faire.
Je sais, moi personnellement, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il existe un parti pirate qui s'occupe de ce genre de
peut-être
questions.
Peut-être oui. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement chez le parti pirate, mais je suppose qu'elle s'oppose à ce projet de loi.
Je vais essayer de me renseigner.
Moi, j'ai une question à propos de la licence publique générale que vous avez créée.
Oui, la licence publique générale de GNU.
C'est ça, exactement. Et je voulais savoir pourquoi, dès qu'on fait une modification d'un logiciel qui a été publié sur la GPL, pourquoi la GPL, englobe les autres licences. Si par exemple, je fais une modification...
La GPL est une licence de gauche d'auteur, en anglais copyleft. Et ça signifie que l'utilisation d'une portion de l'œuvre est autorisée sous la condition que l'œuvre dans laquelle cette portion et utilisé soit publié dans sa totalité sous la même licence.
Donc aucune possibilité de la publier sur une licence BSD par exemple.
Bien sûr, donc, une licence BSD c'est une erreur, c'est une confusion. Il y a deux licences BSD avec une grande différence entre les deux. Il faut ne jamais dire une licence BSD sans distinguer laquelle, mais voici pourquoi nous ne le permettrons pas. Le but du gauche d'auteur est de protéger la liberté de tout utilisateur de toute version. Et donc, si la GPL autorisait la publication d'une version modifiée sous une des licences faibles, un autre pourrait y prendre le même code et le mettre dans un programme privateur, donc utiliser notre travail pour soumettre les gens. Et voici ce que nous voulons éviter. Le but de la GPL est d'éviter que notre code ou qu'une partie de notre œuvre soit convertie en œuvre privatrice. Et pour ça, il faut bloquer les chemins qui mèneraient à cette injustice. Et la méthode que j'ai inventée est d'exiger que chaque œuvre qui contient une portion de ce que j'ai publié soit publiée dans sa totalité sous la GPL. C'est-à-dire que pour protéger ta liberté, j'interdis que l'intermédiaire convertisse mon code en software privateur. Donc, il y a au moins deux types de licences libres. Il y a les licences de gauche d'auteur, il y a les licences faibles sans gauche d'auteur, et il y a des licences intermédiaires qui posent des conditions sur la version entière, mais n'exigent pas que ce soit libre. Mais les licences intermédiaires sont moins utilisées. Donc normalement on trouve ou le gauche d'auteur ou les licences faibles. Les licences faibles permettent plus ou moins n'importe quoi, y compris la conversion en logiciel privateur.
Bonsoir. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que vous vous considérez comme anarchiste?
Non, bien sûr que non.
Parce que vous parlez énormément de liberté, même de
oui,
libertarisme.
Mais je ne suis pas anarchiste parce qu'il faut l'État. Le gauche d'auteur est basé sur le droit d'auteur, qui est une création de l'État. Mais la démocratie aussi est un système de l'État. Je ne suis pas anarchiste, parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous avons besoin de l'État. Je suis pour l'état de bien-être, pour les systèmes d'appui sociaux.
Donc, ma question, en fait, c'est, fondamentalement, elle est sur l'argent. Et la question, c'est finalement...
Fondamentalement, c'est quoi?
Sur l'argent, la monnaie.
Oui.
Et puis, c'est finalement, dès le moment où on utilise la monnaie, c'est un pouvoir qui peut finalement être utilisé à d'autres fins par
une personne qui... Je n'entends pas les mots que vous dites. C'est trop vif pour moi.
La monnaie, dès le moment où on rentre dans un système monétaire, on donne la possibilité à celui qui reçoit l'argent de l'utiliser à ses fins, à ses propres objectifs.
Oui, c'est vrai.
Qui peuvent parfois être donc tout à fait négatifs et anti-libertaires.
Oui, mais je ne propose pas de réglementer tout ce qui utilise la monnaie. Ce serait totalitaire. Donc, il faut l'État pour protéger les libertés contre les riches.
Mais vous êtes d'accord que c'est une question de confiance?
Confiance de quoi? Je suis
confiance
perdu.
En l'État, en l'argent, en personnes avec qui on fait des transactions.
Non, 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 non. Ce n'est, Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de la démocratie pour assurer que l'État agisse bien. Pas seulement de faire confiance à l'État, l'État doit mériter la confiance. Et donc comment faire que l'État mérite la confiance? Voici le problème. Je ne dis pas que ce soit facile, mais il faut un État, il faut que l'État agisse justement, il faut que l'État mérite notre confiance. Et comment le faire? C'est difficile parce qu'évidemment, il y a des instabilités. Le danger de tomber sous la plutocratie, comme les États-Unis ont fait, je ne vois pas de solution. Mais d'éliminer l'État n'est pas une solution. Sans l'État, les riches domineraient tout, même pire que maintenant.
Vous êtes pour pouvoir utiliser une monnaie, vous avez besoin d'avoir confiance en elle, sinon elle vaut rien,
oui,
ça n'a pas
oui,
de sens.
Mais
si je veux utiliser
pour moi,
une monnaie,
je dois avoir confiance
en vous. Qu'est-ce qui me dit que vous
nous changez le sujet. Pour moi, la monnaie est un aspect de la question politique.
Oui, mais pour moi, la véritable question, c'est la confiance. C'est la confiance qu'on a en soi, donc l'individu, la liberté, comme vous dites. Et la liberté
caritable,
la confiance que nous avons dans l'État.
Je ne formule pas mes pensées en termes de, spécialement de la confiance. Je ne comprends pas complètement.
C'est comme Internet entre chaque PC. C'est la question de la relation et de la qualité de relation qu'on peut avoir.
Je suis perdu. Je ne comprends pas bien, mais je ne veux pas dire que ce que vous dites est faux, mais ce n'est pas la même idée que la mienne.
Vous parlez d'ordinateur. Pour construire un ordinateur, il faut avoir des pièces. Ce n'est pas vous qui allez les faire. Donc comment faire confiance aux
pièces?
Je suis
perdu. Quoi?
Des hardware.
Oui, mais c'est une autre question.
C'est la vraie question fondamentale qu'il y a de là derrière.
Je ne le dirai pas. Je ne trouve pas que c'est plus important que les questions que j'ai abordées. C'est une autre question. Il y a beaucoup, beaucoup de questions politiques et éthiques dans la vie.
Peut-être qu'on ne vous mettra pas d'accord tout de suite. Vous pourrez éventuellement en discuter un peu plus tard.
Pour moi, je suppose que ce ne serait pas vraiment utile. Il a des idées très différentes des miennes. Qu'est-ce que faire? Mais d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres avant de terminer?
J'ai une question très simple, Roger. De quoi vis-tu?
De quoi tu vis? Je n'aime pas cette expression. Comment est-ce que je gagne de l'argent?
Voilà.
Comment est-ce que je... par des conférences. Je suis payé par des conférences et je fais d'autres conférences sans paiement.
Merci.
Et aussi, j'accepte les dons. Si vous voulez me donner de l'argent, je l'accepterai. Donc, il paraît que... Est-ce que vous attendez poser une question? Donc, il n'y a plus de questions. Nous terminons.